Manu Info.
Et alors, on commence par une petite brève sous forme d'appel à soutien pour en fait tout de suite maintenant. Donc, arrêtez tout, coupez la radio et rendez-vous à l'auditorium à côté de la Part-Dieu à Lyon. Puisque hier, les intermittents, intermittentes, notamment celles et ceux qui étaient regroupés dans le collectif Unitaire, occupaient hier pendant quelques heures l'auditorium de Lyon. Une occupation pour porter les revendications du monde de la culture. Il et elle demande notamment la prolongation de l'année blanche jusqu'à un an après la reprise des spectacles et le retrait définitif de la réforme de l'assurance chômage qui les impacte pas mal du tout. Alors hier à l'auditorium se tenaient les répétitions pour les Victoires de la musique classique qui ont lieu ce soir en direct en présence de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Donc les intermittents et intermittentes ont obtenu un rendez-vous avec elle qui doit se tenir aujourd'hui en fin d'après-midi et enfin qui a dû se tenir du coup et ils ont dû quitter l'auditorium mais appellent un nouveau soutien ce soir à 18h. Donc là il est 19h mais je pense que vous pouvez encore y aller. Et apparemment si ça vous inquiète, des attestations de sortie pendant le couvre-feu à cause du couvre-feu seront disponibles sur place.
En Italie, hier, il y a eu un glissement de terrain dans le village de Camogli. Je ne sais pas du tout comment on prononce l'italien, je suis vraiment
complètement dit. Je pense que c'est pas du tout ça.
Oh, ça va. En tout cas, c'est en Ligurie. Un petit glissement de terrain au bord d'une falaise, mais en haut de la falaise, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un cimetière, et là, 200 cercueils à la mer. 70 mètres en dessous, enfin une sorte de truc un peu monumental, fou, dramatique, dégueulasse, un peu film d'horreur avec des cadavres qui flottent comme ça. Bon, écoutez, les opérations de récupération des dépouilles menées par la police et les pompiers alors vont se prolonger longuement, hein, parce qu'en fait, juste en dessous, ils ont peur de se prendre encore des gadins sur la tête, vu que c'est des histoires d'érosion. Bon, tous les 100 ans, plus ou moins, dans ce bled, il y a un morceau de falaise qui s'effondre.
Mais il n'y a pas toujours un cimetière dessus.
Il y avait pas toujours. Bah disons que ça a dû se rapprocher au fur et à mesure des siècles du cimetière. Bref, cette fois-ci, ils en ont récupéré pour l'instant 11 sur les 200. Bref, si vous vous baignez dans ce coin de l'Italie cet été, peut-être qu'à un moment ou un autre, vous pourrez tomber sur un papy mort depuis quelques années qui vous croisera au milieu des flots.
Canu Info. Du mercredi.
Alors, on a beaucoup parlé de la casse des hôpitaux qui a imputé à peu près à tous les gouvernements successifs depuis quelques décennies et qui n'a fait qu'empirer les conséquences de la pandémie de Covid. On revient rapidement sur le cas précis des services de réanimation qui sont emblématiques et délibérément abandonnés avec un article qui est paru mercredi dernier dans le Canard Enchaîné et qui relaie le constat du syndicat des médecins réanimateurs qui a appelé le 16 février à une grève illimitée. On y apprend notamment que, en un an, pas un lit pérenne n'a été créé et pas un médecin supplémentaire n'a été formé en réanimation. Que la France compte aujourd'hui 5080 lits en réa, c'est-à-dire autant qu'en mars 2020. Tous les lits supplémentaires pendant les pics de Covid sont éphémères et obtenus en déprogrammant d'autres patients en catastrophe. De toute façon, avant le Covid, 500 à 600 lits de réanimation étaient déjà fermés, faute de médecins suffisants, puisque les services tournent avec des intérimaires. On y apprend aussi que Olivier Véran a fixé en septembre dernier le nombre d'internes en réanimation à 74 cette année contre 72 l'année passée. Un choix donc délibéré de ne pas augmenter la formation, puisque comme il le disait en mai, ce qui prend du temps, c'est la formation. Un anesthésiste réanimateur, c'est 11 ans de formation. Autant dire, mieux vaut ne rien commencer. Faut-il dimensionner les services de réanimation en fonction d'une crise qui survient une fois par siècle ? Je ne crois pas, affirmait Jean Castex en mai.
Et ça, même quand la crise, on est encore en plein milieu, quoi.
Alors, on en parlera peut-être plus en détail la semaine prochaine. Des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté lundi 22 dans tout le pays, 2 ans pile après le début du Irak. Ils ont ainsi affirmé que les raisons de combattre le régime demeurent. À Alger, à Béjaïa, à Tizi Ouzou, à Tébessa, ou à Bouira ou à Oran, ils scandaient « Nous ne sommes pas là pour célébrer, mais pour que vous partiez ». Si le Irak a eu raison de Bouteflika, qui a dû renoncer à se présenter une cinquième fois aux élections, puisqu'il a été remplacé par Tebboune, le système, lui, qui a été dénoncé en 2019, et le système et tous ses privilégiés, lui, toujours là. Si la libération de certains prisonniers politiques a été largement médiatisée, les arrestations de militants n'ont jamais cessé, puisque des centaines de manifestants ont d'ailleurs été arrêtés le matin même du 22 février, donc juste avant les manifestations.
Alors, cette au lendemain de ces fameuses libérations médiatisées.
Oui, voilà, tout à fait. À cette répression s'ajoutent les ravages du chômage fortement aggravés par la crise sanitaire, la misère qu'il signifie pour les classes populaires algériennes. Et puis, c'est quand même, ça a été une manifestation assez suivie, et donc un succès qui montre que la combativité dans ces rangs-là n'a pas disparu et que le mécontentement populaire est toujours là et bien profond. Alors mardi, les manifestations ont continué, cette fois portées par les étudiants et étudiantes qui avaient l'habitude de se mobiliser chaque mardi avant l'interruption en mars dernier du fait de la pandémie. Et ce mardi, ils et elles sont comptés en dizaines, donc moins massives que lundi, mais bien présentes par contre dans le centre-ville d'Alger, où les manifs et rassemblements étaient interdits. La présence policière était ultra visible pour montrer ça. Et ils ont tout de même réussi à atteindre le Théâtre National et la Faculté Centrale d'Alger en réitérant des slogans pour la liberté de la presse, un état civil et pas militaire, et pour plus de liberté. Alors début février, la jeunesse universitaire algérienne avait récemment manifesté aussi sa colère après la mort accidentelle d'une étudiante décédée d'électrocution, soi-disant suite à un court-circuit dans sa chambre. Donc c'est dire l'état de la chambre de la CTU d'Alger qui est devenue du coup un symbole de la précarisation des conditions de vie sur les campus et qui a pareil fortement mobilisé. Donc à suivre, et puis on en reparlera certainement un peu plus la semaine prochaine.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, au début, j'étais parti pour en faire une brève, et après, je suis tombé sur un article du Figaro qui valait quand même son petit pesant de cacahuètes. En tout cas, il y a une soixantaine de députés, alors députés et .es, hein, ça, c'est important pour la suite de l'article, les Républicains ou La République En Marche, qui ont déposé .es, hein. Une proposition. Non, je vais pas le faire tout. Je vais pas le faire tout le long.
Donc là, ça s'accorde pas en fait.
Ah merde, je suis vraiment trop nul en orthographe.
Alors, ils ont peut-être bien fait de déposer quelque chose parce qu'il faut la protéger cette langue.
Peut-être bien fait.
C'est vrai qu'ils parlent des gens comme moi dans l'article. Bref, donc une proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive. Bon, alors c'est comme leur poids est quand même un petit peu limité, ils veulent l'interdire dans les documents administratifs. C'est-à-dire qu'avant, si le petit Robert ou le Larousse décide de le foutre dans le dictionnaire, ils pourront faire n'importe quelle loi, ça pourra pas passer. Bon, et c'est au hasard d'un article Tribune du Figaro que je suis tombé sur cette nouvelle. D'ailleurs, il y a un peu que eux qui en parlent, hein, signe que le sujet doit être de la plus haute importance. En tout cas, ça l'est pour le Figaro, puisque ce n'est pas moins de trois articles qui sont regroupés en un dossier sur le sujet, qui sont à peu près en deuxième page du site, quoi. Bon, et comme seulement un seul était en accès gratuit, ah oui, la radio a refusé nos demandes d'abonnement du Figaro, Valeurs Actuelles et Marianne, je me suis donc tapé la longue, très longue tribune gratuite. Je sais plus. Ah si, c'est une tribune de Kevin Bossuet. Bon, dedans, il cite François Jolivet, député LREM, qui a déposé la proposition de loi et pour qui l'écriture inclusive est un acte personnel, militant et illisible. Oui. Alors oui, bon, d'après ces dires, l'utilisation du point médian. Alors le point médian, c'est ce truc qui fait qu'on met point, le mot point es pour point e point e.
Et il est médian parce qu'il est sur la ligne imprimée, il est un tout petit peu plus haut que le point de fin de phrase.
Ah putain, alors ça, moi j'ai jamais vu un truc pareil.
Oui, ok, ça. D'accord. Bon. C'est qu'il est à la hauteur à peu près de la moitié des lettres basses.
Ah non, il est d'accord. Ok. Bon. Voilà, ça c'est.
On a un expert en typographie. Punaise, sur le plateau.
C'est, je veux dire, y a, à part un œil d'expert, personne ne peut voir la différence, quoi. Mais en tout cas, pour lui, c'est illisible. Et en tout cas, l'utilisation de ce point médian afin que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin rend la langue française illisible et la dénature. Bon, on imagine bien que c'est plus sur le côté dénaturant qui inquiète nos députés sur qui ont fait cette proposition de loi. En tout cas, cette lubie. Alors là, je cite quand même l'article, sévit au sein des écoles de la République française. Et ça, quand même, c'est un peu le drame. Une armée de profs et d'instits tapis dans l'ombre.
C'est presque du séparatisme, quand même. Enfin, déjà, on sépare les mots en plusieurs parties.
Alors, tu ne fais pas si bien dire, t'es en train de me spoiler la fin de ma chronique. En tout cas, une armée de profs et d'instits, là je cite plus l'article quand même pour être tout à fait honnête, tapis dans l'ombre, manipule en secret les élèves de la nation afin de leur dénaturer le cerveau et les rendre perméables, ouais bon jusque là c'est l'école, aux théories féministes, les rendant par ricochet perméables aux théories décoloniales et raciales. Bon là j'extrapole carrément, mais vu le ton de l'article, franchement on était vraiment pas loin. Je cite l'article pour le coup. Il suffit en effet, quand on est enseignant, ou enseignante, là c'est moi qui rajoute, d'ouvrir sa boîte mail professionnelle pour se rendre compte à quel point ceux qui sont censés transmettre notre belle langue française sont les premiers à l'estropier pour mieux afficher leur adhésion quasi fanatique au pseudo-féminisme des beaux quartiers. Oui. Pire encore, je continue de citer, certains professeurs poussent le vice jusqu'à utiliser l'écriture inclusive dans leur salle de classe, voire jusqu'à l'enseigner en tant que tel. Et là, quand même, c'est grave. Le Figaro a mené l'enquête. Enfin, ils sont allés voir chez leurs confrères et consoeurs de Slate pour trouver une tribune où 314 enseignants et enseignantes déclaraient assumer, utiliser et enseigner l'écriture inclusive à leurs élèves. Et tenez-vous bien, même les éditeurs de manuels scolaires s'y mettent. Chez Hatier, filière de Hachette, on trouve pour des élèves de CE2... Hein, je cite le manuel, grâce aux agriculteurs, point médian, RIS, point médian, S, aux artisans, artisanes, bon, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, et aux commerçants, commerçantes, la Gaule est un pays riche. Voilà. La Gaule était un pays riche, pardon. Voilà, alors ça, et chez les éditions Duno, mais qui appartiennent également à Hachette. Est-ce que c'est parce que cet éditeur possède un nom féminin qui tient absolument à utiliser l'écriture inclusive ?
C'est une officine communautariste.
Ah, j'ai l'impression. En tout cas, il propose aux enseignants et enseignantes un ouvrage qui a pour titre « Enseigner l'égalité fille-garçon ». Horreur au Figaro. Alors là, d'un coup, le Figaro se met à s'intéresser aux élèves en difficulté et plus seulement à une certaine élite et qualifier l'écriture inclusive en classe où l'enseigner est tout bonnement criminel pour les élèves.
C'est pas criminel l'accord du COD avec le parti passé, ça non.
C'est ça. Et donc pour les élèves qui ne
avec
sont donc.
Verbe à voir.
Oui.
Mais voilà, moi je ne comprends rien. Alors je ne comprends rien à ce que vous dites. Alors je comprends à peu près l'écriture inclusive. Donc voilà, pour les élèves qui ne sont du coup pas des lecteurs confirmés, et particulièrement pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté. Et comme le Figaro. Et en tout cas, l'auteur de cette tribune n'a pas peur de s'auto-caricaturer. Il prend un exemple, juste un exemple pour qu'on comprenne bien le problème. Attention, je cite. De plus, avec le mot « les musulmans, musulmanes », par exemple, vraiment, juste prenons cet exemple-là. Hein. L'élève doit en amont apprendre le fonction du point médian pour comprendre le S, que le S s'ajoute au masculin comme au féminin. Alors le mot musulman a vraiment été choisi par hasard par l'auteur de cette tribune. Alors je pense que c'est un défi dans la rédac du Figaro. Pour accepter une tribune, il faut donc placer le mot musulman ou musulmane pour qu'il soit à chaque fois plus ou moins dans chaque article du Figaro. En tout cas, si vous faites un bingo des mots dans les articles du journal, cette tribune coche pas mal de cases. Car je vous laisse deviner la conclusion de l'article. L'écriture inclusive constitue de fait une forme de...
Séparatisme,
bien joué, qui ne doit plus avoir sa place au sein de l'école républicaine. Alors merci à Kevin Bossuet pour ce magnifique article tribune. Et quand on tape son nom au Google, on ne sera pas étonné de trouver pas mal d'articles chez Valeurs Actuelles. Pas du tout ça.
C'est pas grave, j'attaque. Surtout que c'est quasiment dans la lignée parce qu'on va encore parler de ces idéologues de ces idéologues qui veulent nous forcer à accepter cette pensée unique anti-raciste, anti-sexiste, de tous ces non-républicains, ces anti-républicains, ces séparatistes.
Eh ben, je pense que ce dont tu vas parler était juste au-dessus ou juste en dessous de l'article dont j'ai parlé.
Et en l'occurrence, les séparatistes terribles dont je vais parler ne sont rien d'autre que le conseil municipal de la ville de Lyon.
Attention.
Attention.
Où nous nous situons.
Alors, bon, c'est ça, comme je disais en disant les titres, c'est pas complètement une information pour la plupart des gens qui nous écoutent, à condition qu'ils aient écouté des informations depuis le début de la semaine. Mais en tout cas, voilà, moi aussi, allez, zou, j'en ai rien à foutre, je me jette dans la polémique, il n'y a pas de raison que n'importe quel Julien de Normandie puisse raconter connerie sur connerie, et que moi, j'ai même pas le droit de parler, vous voyez.
De raconter des conneries.
Moi quand même. Alors, depuis lundi, ça y va, de la connerie, justement, en mode bref de comptoir. Décidément, les ministres, en particulier dans leur ambiance, on racle le fond du bidet de la connerie pour rameuter les beaufs, n'ont jamais peur d'en faire trop. Donc, pour reprendre, la mairie de Lyon, donc des sortes d'écolos radicaux, des Khmer verts en quelque sorte, après avoir dit déjà du mal de notre trésor national, le Tour de France, vous voyez, ces gens sont des dingues, ont maintenant eu l'idée incroyable, effroyable, j'ai cru lire mais j'avais quand même écrit incroyable, de faire des menus sans viande dans les cantines des écoles publiques de la ville. Alors on va même pas mentionner qu'en termes de menus sans viande, c'est même pas des menus végétariens puisqu'il y a du poisson. Je veux dire, c'est vraiment.
Et certainement des œufs.
C'est ça. Et alors complètement des œufs, du fromage, tout ça. Là, on parle pas du tout de menu vegan, on parle même pas de menu végétarien, mais quand même des menus sans viande pour des enfants. Vous vous rendez compte comme c'est monstrueux. L'idée, en tout cas avancée, c'est de fluidifier les services dans les cantines et alléger le protocole sanitaire en évitant d'avoir plusieurs menus. Celui pour les Gaulois de souche d'un côté, et celui pour les petits mauvais républicains, bon, les juifs, les musulmans, tout ça, qui mangent pas de porc d'un autre côté. Ça crée de la complication, ça crée des machins. Bon, pour le Covid, c'est pas bien. Bref, un truc pratique, finalement. Tellement pratique et facile que même Gérard Collomb, qui est, alors lui, pour le coup, on peut pas dire que Gérard Collomb est un écologiste radicalisé, et ben lui, il avait eu la même idée à la fin de l'année scolaire dernière, quand il était encore aux affaires. Mais Gégé, c'est pas pareil, il était à La République En Marche, donc c'était juste une décision de bon sens. Là, c'est des écolos, Europe Écologie Les Verts, vert d'or, rouge dedans, les pastèques, tout ça, des crypto-marxistes décroissants. Alors vous comprenez bien que les mêmes menus que ceux que proposait Gégé un peu tranquillement sont maintenant très malsains d'un point de vue diététique en particulier. Et pas que diététique. Et donc ça y va des commentaires, alors n'importe qui, hein. Bruno Retailleau qui parle de tentation totalitaire d'un courant de pensée qui veut imposer ses options à tous par la contrainte.
Ça lui rappelle Notre-Dame des Landes, hein.
Vous vous rendez compte, quoi. dans la ville de la gastronomie, la majorité écologiste profite de la crise sanitaire pour faire passer des mesures idéologiques. Alors ça, c'est une vague conseillère municipale de droite, j'ai même pas besoin de noter son nom. Darmanin, il fait ce qu'il peut pour garder le pompon, hein. C'est Darmanin. En plus de l'insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des Verts exclut les classes populaires.
Ah bon. Et c'est vrai qu'en termes d'exclusion, lui, s'y connaît pas mal, parce que dans le place Beauvau là, du maintien de l'ordre, ils ont complètement oublié d'inviter tout ce qui était représentant des familles, des victimes des violences policières.
Ah ouais. Dingue. Darmanin, oh. Alors, je continue Darmanin. De nombreux enfants n'ont souvent que la cantine pour manger de la viande. Darmanin n'est pas sociologue, et il ne connaît pas en vrai ce qui se passe dans les cuisines des pauvres, la preuve. Enfin, le meilleur, Julien de Normandie, le ministre de la FNSEA, vous voyez, c'est la FNSEA, le syndicat des agriculteurs de droite. Arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants. Alors, mon petit Julien de Normandie, qu'est-ce que ça veut dire idéologie ? Ça veut dire, bien sûr, différent des évidences ancestrales. Ça veut juste dire ça quand c'est dans la bouche de gens comme ça. Et en l'occurrence, différent des intérêts des éleveurs industriels, puisque c'est ça les évidences ancestrales. La consommation de viande, ça, c'est pas idéologique, pour la bonne raison qu'on a juste toujours fait ça. Comme la guerre, le viol, les dominations variées, la viande n'est pas idéologique, elle est naturelle. Le végétarisme, le désarmement, le consentement, l'égalité, ça c'est idéologique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de Normandie, Florence Parly, Darmanin, Bruno Le Maire, lui, il n'est pas idéologique, il est naturel, ou ça s'appelle autrement pragmatique. Julien de Normandie, donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il saisit le préfet du Rhône pour enquêter et savoir si les menus dans les cantines seront adaptés aux besoins nutritionnels des enfants. Mais parce que ça nécessite quand même une enquête, hein, parce que là, c'est un scandale, un scandale.
Surtout que là, on parle d'une période de quoi peut-être 3, 4, 5 mois ?
Non, mais parce que quand même, alors en vrai, là où je partage pour le coup...
l'inquiétude d'Armanin.
L'analyse de la FNSEA, c'est que je pense réellement que les Khmers verts de la mairie de Lyon, sous prétexte de Covid et de fluidité sanitaire, veulent réellement tenter une expérience pour pérenniser le truc de garder des menus sans viande à la cantine. Eh bien, figurez-vous qu'on ne va pas passer énormément de temps à ces micros à dire du bien de la mairie de Lyon, mais franchement, c'est bien.
Et surtout qu'il existe déjà la possibilité de prendre des menus sans viande à la cantine.
Oui, tout à fait. Oui, là, c'était tout pour à fait. Simplifier.
Sans viande, c'est ça. Ou avec de la viande, pas de porc. Mais justement, c'était pour faire un seul menu, puisque a priori, les gens qui mangent de la viande peuvent manger des choses qui ne sont pas de la viande.
Mais pas l'inverse.
Alors que l'inverse, c'est ça. Les végétariens, a priori, oui, quand il y a un menu sans viande, ça fait des trucs qu'ils ne mangent pas et donc ils font un menu de substitution. Les musulmans, quand on leur sert du jambon, eh ben, il faut aussi un menu de substitution. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un seul menu que tout le monde puisse manger. Un scandale.
Ce qui est déjà un peu technique quand on voit la gueule de la bouffe à la cantine.
Non, mais oui.
Il faudrait plutôt des menus sans haricots verts, en fait.
Ouais, c'est ça. Ah, ouais, les cantines scolaires. Mon Dieu, quel souvenir. Quel souvenir. Donc voilà, Julien de Normandie saisit le préfet du Rhône pour enquêter pour savoir si ces menus dans ces cantines seront adaptés aux besoins nutritionnels des enfants. Alors moi, en vrai, je peux quand même les aider. Hein. Le travail, c'est pas très difficile. Bon, que ça soit en citant des gens qui ont fait des études sérieuses comme Greenpeace en 2017, qui disaient que les enfants dans les cantines scolaires françaises mangent 2 à 6 fois trop de protéines. Ou alors juste en leur disant de sortir un peu de chez eux et de leur tout petit milieu qui fantasme complètement les classes populaires et tout ça, et d'aller voir la réalité dehors. Mais la réalité dehors, c'est d'un côté que des gens qui ne sont pas tous des Khmers verts écologistes sont devenus végétariens. En fait, que la société française a évolué depuis les années 50. C'est ça que ces gens ne savent pas, ne comprennent pas exactement. Mais surtout, ce qu'ils visent comme électorat, c'est l'électorat qui voudrait que la société française n'ait pas évolué depuis les années 50. Mais en tout cas, maintenant, on a des exemples de gens qui sont végétariens, voire véganes, depuis longtemps, et parfois des gens qui sont véganes depuis leur enfance. C'est incroyable, mais ça existe, et ces gens sont vivants pour une part. Et ceux qui sont morts, c'est pas forcément parce que... Enfin, en tout cas, ils vont pas plus mal, ils sont pas plus mal en point que les autres. Peut-être même, en réalité, qu'ils seraient légèrement un petit peu meilleure santé. En fait, de plus en plus de monde se passe de viande. Ah ouais, tiens. Et tiens, contrairement à ce que sous-entendent nos ministres, les gens qui se passent de viande ne sont pas massivement des pauvres qui se passent de viande parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, en réalité, ça pour le coup, c'est une réalité du 19e siècle. Mais au 21e siècle, les pauvres, ils bouffent de la viande tout le temps. Et les pauvres, c'est y compris les très très pauvres, c'est y compris les gens qui sont exclus de toutes les aides sociales. En fait, ces gens-là, ils arrivent toujours à pécho de la viande d'une manière ou d'une autre, que ce soit au Resto du Cœur, que ce soit je sais pas quoi. Le pauvre mange énormément plus de viande que le riche en France. Donc, en réalité, ce dont les enfants de pauvres auraient besoin à la cantine...
Il faut avoir le prix des steaks de soja.
Bah, oui, c'est ça. Non, mais ça d'une part. Et puis d'autre part, il y a vraiment, c'est effectivement, cette idée quand on n'a pas beaucoup de thunes, que la viande, c'est un truc qui est bien à avoir sur la table parce que c'est plein d'énergie, parce que...
T'as aussi un truc très facilement qui te remplit le bide et qui tient plus longtemps
carrément.
Des trucs plus techniques ou plus compliqués à faire.
Tout à fait, mais en réalité, ce dont manquent les enfants des familles qui n'ont pas beaucoup de thunes, c'est pas du tout de grosses viandes rouges, c'est quand même plutôt de fruits et de légumes de qualité.
C'est ça, parce que c'est-à-dire que dans leurs histoires d'apport, machin, truc, j'aimerais bien savoir ce qui reste d'un légume ou d'un fruit, enfin en tout cas pour un légume cuit, recuit, réchauffé, recuit, qui arrive dans les assiettes des élèves. Enfin, j'aimerais bien ce qui leur reste de vitamines et de fibres et tout, quoi.
Bien sûr. Alors, voilà, sauf que, bien sûr, avec tout ça aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on insulte nos éleveurs et nos bouchers. Vous vous rendez compte? Bon, très bien. Même moi, en réalité, je pourrais assez facilement insulter nos éleveurs et nos bouchers juste pour le plaisir.
On va s'en passer.
Allez, ok, on va s'en passer.
On va avoir des bottes de foin devant la radio.
Ouais, c'est ça. Alors, on va juste dire qu'on est en 2021. Et je ne sais pas si les éleveurs et les ministres en ont entendu parler, mais on a comme une sorte de léger petit problème de climat. Quelqu'un a entendu causer de ça, là ? Oh, oh, oh ! De planète, d'écologie ! Youhou ! La production de viande, a priori, ça fait quand même partie des problèmes dans cette perspective, des gros problèmes. Que ce soit du GIEC à Greenpeace ou à la Convention citoyenne pour le climat, tous les gens qui ont un petit peu brassé là autour, tout le monde est d'accord pour dire que diminuer très sérieusement la consommation de viande et donc sa production, voire l'arrêter complètement, ça fait partie des évolutions auxquelles on ne coupera pas si on doit envisager une solution au réchauffement climatique. Mais encore une fois, le gouvernement Macron préfère flatter les électeurs de droite et d'extrême droite et raconter n'importe quoi que d'essayer à un moment ou à un autre d'avoir un discours sérieux. Non, vas-y, on n'a qu'à faire le cordiste maintenant.
Ah bah vas-y, on va parler du cordiste.
Alors du coup, le cordiste, c'est Quentin Zahraoui Brua qui est mort à 21 ans enseveli sous les céréales dans un silo du géant de sucre Cristal Union en 2017. Donc. Et l'info, c'est que le tribunal de Saint-Brieuc a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise ETH qui l'employait. Donc Quentin Zahraoui Brua, il était cordiste intérimaire, payé pour descendre en rappel le long des parois du silo. Pour dégager à la pioche les blocs de céréales séchées accrochés le long des parois. Alors c'est un peu technique, et puis de toute façon le métier de cordiste c'est un métier dangereux et technique. Alors le jour de l'accident, il intervenait dans un silo aux deux tiers plein, les deux cordes auxquelles il était attaché étaient coincées, il s'est détaché pour tenter de les dégager. Les granulés se sont effondrés sous lui, il s'est retrouvé sous lui et sur lui, et il s'est retrouvé enseveli sous 370 tonnes de céréales. Alors comme c'est souvent le cas, Quentin Zahraoui Brua, il avait été recruté via une cascade de sous-traitants, trois entreprises différentes entre le donneur d'ordre et les salariés, et donc lui. Le tribunal de Saint-Brieuc a relevé que les cordistes, tous intérimaires et à l'expérience de moins d'un an, n'étaient pas informés des risques d'enlisement et d'ensevelissement. Ils n'avaient pas davantage été formés à la conduite à tenir en cas d'accident et qu'ils n'avaient pas été prévenus des mesures de secours immédiats en cas d'urgence. Dans quand même un métier très dangereux, je le répète, et où il arrive régulièrement pas des accidents aussi graves, mais en tout cas même des accidents mineurs. Alors, pour une contextualisation un peu plus complète de l'accident, du choc et puis de la rage qui a animé les autres cordistes présents, on ne saurait que trop vous conseiller le livre « On a perdu Quentin » qui est écrit par Éric Louis quelques temps après l'accident. Donc Éric Louis, c'est l'un des cordistes qui était présent au moment de l'accident. Il est aussi auteur d'un blog Mediapart qui s'appelle « Éric Louis 69 » que je vous conseille d'aller voir. Alors la condamnation judiciaire, elle date déjà un petit peu, elle date du 26 novembre dernier, mais en fait l'association Cordiste en colère, donc qui s'est montée après l'accident de Quentin et qui en a fait part, avait décidé d'attendre pour la un peu la médiatiser parce que elle avait décidé d'attendre l'expiration du délai au cours duquel un appel pouvait être intenté. Donc le délai est écoulé depuis hier, il n'y a pas eu appel, la condamnation est donc définitive. Et comme le prévoit la procédure, les parents de Quentin Zahraoui Brua toucheront 30 000 euros de la part de la Sécurité sociale, ensuite remboursés par l'agence d'intérim au titre de leur préjudice. Le même site de Bazancourt, donc là où est mort Quentin, avait déjà connu un accident grave impliquant 4 cordistes en mars 2012, tuant Arthur Bertelli, Vincent Dequin, par exemple, qui avaient 23 ans et 33 ans. Alors, le 1er mars 2019, Cristal Union et un autre sous-traitant ont aussi été condamnés en première instance, mais alors à 100 000 euros d'amende chacun, voilà. Mais alors dans cette affaire-là, un appel est en cours et il y a des chances qu'ils encourent beaucoup moins, voire même que leur faute ne soit pas jugée. Alors, ces accidents mortels à répétition touchent un métier plutôt méconnu, qui ne dépend pas d'une convention collective précise, qui n'exige aucune formation spécifique et qui s'avère, encore une fois, très dangereux. Il y a à peu près 10 000 ouvriers cordistes français qui travaillent au bout d'une corde, suspendus dans le vide, au bord d'une falaise, en haut d'un immeuble ou en plein cœur d'une cheminée d'usine. Et tout cela, sur les 10 000, ils ont dénombré à peu près 23 morts à cause d'accidents professionnels depuis 2006. Donc c'est assez énorme, quoi. En parlant d'accidents du travail, selon le journal britannique The Guardian, sur les 2 millions de travailleurs migrants venus sur les chantiers de la Coupe du Monde de foot au Qatar, plus de 6 500, originaires d'Inde, du Pakistan, de Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka, plus de 6 500 donc seraient décédés au Qatar depuis qu'il a obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde 2022. Donc, ça, c'est l'autorisation, c'était il y a 10 ans. Donc en 10 ans, 6 500 ouvriers du bâtiment décédés. C'est un chiffre obtenu plutôt par projection que par source directe, puisque l'État qatari a annoncé qu'ils sont que 37 à être morts sur les chantiers, et dont parmi eux, 34 d'ailleurs ne sont pas considérés comme accidents du travail. Donc ça reste seulement 3 accidents du travail, en fait, sur 6 500 que propose la lecture du Guardian. Alors, pour déterminer ce chiffre de 12 ouvriers morts par semaine, le Guardian s'appuie sur les statistiques données des gouvernements de ces pays, principaux fournisseurs de la main-d'œuvre au Qatar, et le nombre total de décès qui serait encore sous-évalué parce que les données d'autres pays comme les Philippines ou le Kenya, qui comptent de nombreux ressortissants travaillant au Qatar, n'ont pas été recueillies. Quant au fait que les décès sont liés spécifiquement aux chantiers nécessaires au mondial, alors même si de toute façon la question n'est pas que leur mort serait plus grave si elle est liée au chantier du mondial ou pas, de toute façon il y a beaucoup de morts de travailleurs migrants au Qatar et qui sont de toute façon révoltantes, c'est une estimation probable puisque depuis 2010, avec la bénédiction du reste de la planète, le Qatar s'est lancé dans un programme de construction gigantesque avec des routes, des aéroports, des transports publics, des hôtels, des stades pour accueillir cette grande manifestation qu'on attend tous. Alors, comment ça, on l'attend pas tous ?
Ah ben, si.
Si.
Voilà.
De toute façon, en plus, Radio Canu est partenaire de l'événement.
Ah mais évidemment. Et puis ça va nous donner de quoi parler aussi quand ça aura lieu, enfin.
Ah, évidemment, le Guardian souligne que derrière les chiffres se cachent d'innombrables histoires de familles dévastées qui sont retrouvées sans leur principal soutien de famille, luttant pour obtenir une indemnisation et confuses quant aux circonstances du décès de leurs proches. Ah oui, puisque évidemment elles ne sont pas sur place et souvent c'est des contrats compliqués ou voire pas de contrat du tout qui ne les couvrent pas du tout. La réponse du Qatar, donc de 37 morts sur les chantiers, dont 34 ne sont pas des accidents de travail, comme je le disais, est largement remise en question par exemple par Amnesty International, qui déclare qu'il y a un réel manque de clarté et de transparence autour de ces décès, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que le Qatar exploite allègrement ses populations immigrées pour la construction qatari, ça c'était un secret pour personne, mais la FIFA, donc la fédération de foot au niveau mondial, à qui on demande quand même un minimum de garantie morale, a répondu quand même sans s'offusquer de la situation que, je cite, « les mesures de santé et de sécurité mises en place sur les sites sont très strictes ». L'instance de football mondial assure également que, je cite, « la fréquence des accidents sur les chantiers de la Coupe du Monde de la FIFA a été faible par rapport à d'autres grands projets de construction dans le monde ». Alors, c'est pas bien auquel ils pensent, mais c'est sûr que si on entend par grand projet...
Le pipeline de Total en Birmanie, peut-être.
Ah, voilà, peut-être. Ou alors les pyramides égyptiennes, ou les cathédrales européennes au Moyen-Âge. Voilà, alors peut-être que là, oui, ces constructions-là, elles ont fait plus de morts que le chantier du Mondial 2022, mais enfin, c'est pas beaucoup plus.
On vous en parlait il y a 15 jours dans le dernier Canu Info qu'on avait fait. Ce fameux rappeur Pablo Hasél a été, à l'époque, était menacé d'emprisonnement en Espagne pour insulte à la monarchie, insulte à la police et insulte à l'État. Il a depuis été arrêté. On a joint notre pote Jordi qui habite à côté de Barcelone.
Rapear no es delito. cárceles los débiles y los más pobres.
Aujourd'hui, toi, t'habites à côté de Barcelone. Là, depuis une semaine, ça bouge pas mal dans le coin là-bas, depuis l'arrestation de ce rappeur Pablo Hassel. Alors, est-ce que tu peux commencer par revenir un peu sur les événements, quoi, depuis une semaine?
Bah déjà, on peut expliquer un peu le pourquoi l'arrestation là, de Pablo Hassel. Ouais. C'est donc un rappeur qui dans une de ses chansons, s'en prend assez violemment au roi espagnol, à l'ex-roi de fait espagnol, là, celui qui est en exil aux Émirats Arabes Unis, là, puisqu'il est recherché par la police espagnole, en l'accusant d'être un mafieux. Ce qui est quand même assez paradoxal, puisqu'il l'accuse d'être un mafieux pendant que le type est obligé de s'évader du pays, quoi. Enfin,
c'est ça, ça ressemble à une lapalissade.
Oui, voilà. Mais aussi quelques autres tweets, pareil, assez énervés, notamment en faisant des références à un groupe de lutte armée communiste qu'il y a eu dans les années 80-90 en Espagne. Et lui se revendique assez clairement de cette mouvance-là, communiste révolutionnaire, on va dire. Mais bon. Je veux dire, ça casse pas trois pattes à un canard, ça reste des tweets, c'est des chansons de hip-hop comme il y en a tous les jours qui sortent, des plus offensantes. Enfin, c'est assez dérisoire, honnêtement, et c'est presque la justice espagnole qui a donné, enfin c'est même totalement ça, la justice espagnole en a fait un cas d'école de répression à des gens qui pensent et s'expriment de manière différente.
Parce qu'il parle mal aussi de la police. Et c'est aussi
oui, mais comme tous les rappeurs du monde, quoi. Je veux dire, c'est oui, il parle mal de la police, effectivement. Il a aussi lui-même, en fait, dans sa vie, des histoires. De fait, il est condamné pour ça, mais il a aussi d'autres condamnations pour des histoires de, je sais pas, de bousculade avec la police, quoi. Des choses pareilles, pas bien méchantes, quoi. Mais disons que ces différentes condamnations mises bout à bout, les unes des autres, ont fait qu'il a été, il y a eu une demande de mise à l'écran, enfin de le faire rentrer en prison il y a quelques semaines de ça. Il avait jusqu'au vendredi il y a 10 jours là, pour se présenter en commissariat et il a décidé de refuser de rentrer de lui-même et donc il s'est enfermé dans une université catalane avec tout un groupe de gens en soutien, donc lui il fait partie d'un réseau de communistes révolutionnaires. Et donc, ils sont enfermés dans l'université et ils ont obligé donc la police catalane à rentrer dans l'université et aller les chercher de force, quoi. Enfin, aller le chercher de force. Ce qui s'est passé, ce qui a donc provoqué cette stratégie-là, elle a fait qu'il y a une attention médiatique très particulière. Enfin, de fait, ça fait des années qu'on connaît cette histoire, parce que ce type-là, ils étaient quand même rentrés chez lui à 6h du matin. Ils ont monté une opération antiterroriste contre lui. À l'époque, je m'en souviens, pour ses premiers tweets, quoi, c'était vraiment ridicule. Mais malheureusement, les juges ont estimé que cette histoire, qui est à la base juste une histoire policière assez banale, méritait d'en arriver à des condamnations de prison ferme. Et donc, le type a pris presque un an de prison pour les commentaires insultants qu'il aurait fait sur les réseaux sociaux.
Il est déjà condamné, tu veux dire ? Le jugement
oui,
a déjà
pour
lieu.
Ça, il a pris. En fait, il y a quatre condamnations différentes, et puis il y en a deux qui ont des recours. Mais vraiment, encore une fois, c'est des histoires. Il est accusé d'agression sur un journaliste. C'est une bousculade, comme il y en a tous les samedis soirs dans des bars. Enfin, honnêtement, c'est dérisoire. C'est clairement monté en épingle pour limiter son expression, quoi.
Et là, du coup, la police rentre dans l'université, l'embarque, et la Catalogne tout entière, et même une grande partie de l'Espagne, prend feu immédiatement, quoi.
J'aurais du mal à parler de ce qui se passe en Espagne, parce que c'est vraiment des situations très différentes. Je le ferai un petit peu, mais c'est vraiment très différent, je pense, la manière de sentir les choses dans ce qui se passe en Catalogne et ce qui se passe en Espagne à ce niveau-là. Bon, j'imagine que les gens ne sont pas sans savoir qu'on sort de 10 ans d'un processus indépendantiste catalan qui a été extrêmement tendu. Et vraiment, c'est les conséquences de ça, quoi. Ce qui se passe là en Catalogne, il y a vraiment très fort ça. Il s'est arrêté donc le lundi matin et le lundi soir, il y a 70 rassemblements convoqués dans toute la Catalogne. Et dont, par exemple, à Girona, qui est une ville moyenne, 100 000 habitants à peine, il y avait 5 000 personnes à la manif. Et dans une dizaine de villes comme ça, les rassemblements finissent avec des confrontations assez violentes avec la police. Notamment à Barcelone, évidemment, et à Barcelone, ça a continué tous les jours depuis. Ça fait une semaine qu'il y a des émeutes tous les soirs, à part dimanche, je pense. Et Et c'est évidemment pour l'histoire de ce rappeur. Il y a aussi toute une génération de gens plus jeunes qui viennent un peu de cette contre-culture-là. Enfin, je pense que le milieu du hip-hop s'est senti hyper fort attaqué avec ça et avec raison. Mais il y a aussi tout un milieu antifasciste. Il y a toute une histoire de l'antifascisme catalan et de l'indépendantisme catalan qui s'est senti aussi hyper fort interpellé par cette ce qui est en train de se passer et qui du coup s'est mobilisé quotidiennement depuis une semaine.
Mais parce que par ailleurs les lois qui ont permis de l'inculper, c'est des lois qui sont pas très anciennes, qui datent de 2015 si je ne m'abuse, et que le gouvernement actuel avait promis d'abroger.
Ouais, le gouvernement actuel a promis beaucoup de choses qu'on n'est vraiment pas sûr de voir. D'une part, le gouvernement actuel est aussi un gouvernement assez divisé, puisqu'il y a le PSOE, il y a le Parti Socialiste et Podemos qui sont en coalition, et en fait, ils sont évidemment pas du tout sur les mêmes lignes sur pas mal de points. Par exemple, Podemos, depuis le début, n'a pas un seul moment condamné les supposées violences qu'il y a dans les manifestations. Alors qu'évidemment tous les autres partis lui mettent une pression dingue pour qu'il se passe ça. Donc il y a une énorme tension au sein de ce gouvernement. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un gouvernement cohérent, etc. Là, il y a vraiment deux tendances qui se... Et d'ailleurs, le gouvernement est soutenu. Il n'aurait pas la majorité s'il n'était pas soutenu par les indépendantistes catalans. Une partie des indépendantistes catalans. Donc c'est pour vous dire, il y a quand même un sacré... C'est un équilibre des forces très étrange. Et le Parti Socialiste espagnol est quand même très très conservateur. La monarchie espagnole tient grâce au Parti Socialiste. C'est la clé de voûte du système monarchique. Donc ce qui est assez dur à comprendre quand on vient de France et qu'on a un imaginaire aussi républicain. Là, ici, c'est vraiment incroyable la défense. Ah, c'est impossible de questionner la monarchie pour le Parti Socialiste. Questionner la monarchie, c'est presque en soi un délit.
Alors que Podemos, pour le coup, c'est un parti qui est un parti qui sort vraiment des mouvements sociaux du début des années 2010 et qui là se retrouve quand même dans une position où ils ont un pied dans les ministères et un pied dans les émeutes, si je comprends bien.
Dans les émeutes, j'irais peut-être pas jusque là, en tout cas dans les mobilisations, quoi. Les émeutes, c'est plus un phénomène comme on peut le voir à plein d'autres moments de rage de une partie de la jeunesse. Je déteste voir ça. En général, quand je vois dans les médias que c'est toujours les jeunes qui font les émeutes, ça m'énerve. Il y a un côté assez paternaliste et tout. Je dois dire que moi, de ce que j'en ai vu, c'est effectivement plutôt ça, quoi. Je pense qu'il y a quand même toute une partie des jeunes, et notamment des jeunes catalans, qui ont ras-le-bol, qui sentent que eux, ça fait 10 ans qu'ils se mobilisent. Et notamment pour le processus indépendantiste, il y a eu 10 ans ici de mobilisation où les gens, ils ont pas lancé, enfin, les 8 premières années du processus indépendantiste, les gens ont pas lancé un papier par terre. Ils se sont fait matraquer, ils se sont fait mettre en prison, ils se sont fait retrouver avec des procès, des gens qui demandent, les leaders catalans qui sont en prison pour presque 10 ans, pour avoir convoqué des manifestations pacifiques, enfin des choses complètement délirantes. Et ben en fait, les gens, ils ont ras-le-bol, quoi. En fait, ça fait 10 ans qu'on manifeste en respectant bien le cadre démocratique, en traversant dans les clous, quoi, comme on dirait. Mais là, ils en ont marre, quoi. En fait, personne nous écoute. Ben, rien à foutre, franchement. Et en plus, avec un truc qui, je pense, est assez similaire à ce qu'on peut croiser en France, une rage contre la police. Enfin, en fait, ici, il n'y a pas le slogan « Tout le monde déteste la police », mais c'est exactement ça, l'ambiance, quoi. Moi, en tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est vraiment les 3/4 de la manif sont habillés en noir et les gens... L'histoire de Pablo Hassel, c'est pas anecdotique, mais c'est la goutte qui fait déborder le vase.
C'est que les gens se sentent vraiment représentés par lui dans la mesure où il est attaqué, quoi.
Ouais, alors qu'honnêtement, ils ne se sentent pas très représentés par lui. Hein. Le type, c'est un stalinien, ultra macho. Enfin, il y a plein d'autres choses qui font que les gens ne sont pas très à l'aise. Et même des gens, enfin, moi, pas mal de mes amis qui ont été au rassemblement sont très mal à l'aise avec des choses que lui peut dire. Et de fait, je ne suis pas persuadé que ce soit quelqu'un, que ça sera un copain. Hein. Mais ce qui lui arrive, c'est pour autant complètement injustifiable, quoi. Et donc, moi, en tout cas, le sentiment que j'avais, c'est vraiment que c'était, c'est un ras-le-bol pour cette raison-là, mais ça aurait pu être pour une autre raison.
Et en Espagne, l'équivalent du fameux article 24 de la loi qui doit être votée en France, là, que cet équivalent existe déjà, c'est-à-dire l'interdiction de filmer la police et de diffuser les images. Est-ce que ça joue un rôle dans toute cette histoire ?
Il y a eu des mobilisations il y a quelques années pour empêcher cette loi-là, effectivement, qui s'appelle la Ley Mordaza, c'est la loi du... Voilà, la loi de la muselière, exactement. Bon, pour museler les citoyens, les mouvements sociaux face aux violences policières. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie de ces 50 fois où les gens ont eu l'impression de se faire mépriser et réprimer et qui font qu'aujourd'hui, ça déborde, quoi. Mais on pourrait en citer plein d'autres. Hein. Je pense encore une fois à cette histoire des prisonniers politiques catalans qui, je sais pas, j'ai l'impression souvent qu'en France, les gens se rendent pas compte, mais c'est comme si... Le niveau de répression pour les personnes qui ont été impliquées là-dedans est quand même assez dingue. C'est vraiment des gens qui ont été condamnés. Il y a vraiment des gens qui ont été condamnés à 9 ans de prison pour avoir appelé à des rassemblements pacifiques. C'est délirant. Et parmi ces gens-là, des gens qui sont députés, le président de la Catalogne même, quoi. Bon, ça c'est une chose, mais il y a aussi tout un tas d'autres cas, des jeunes basques qui ont pris 5 ans de prison pour s'être battus dans un bar. Alors ils ont reçu plus de coups qu'ils en ont donné, mais c'est quand même eux qui ont pris 5 ans de prison parce qu'ils s'étaient battus avec des policiers. Bon, bref, tout un tas de cas comme ça où on a l'impression, et c'est malheureusement pas qu'une impression, que le pouvoir judiciaire espagnol est tellement fort lié à l'extrême droite et à l'espagnolisme, comme on dirait ici, le côté centraliste le plus réactionnaire, que ça donne aux gens profondément un sentiment d'injustice.
Toi, tu as l'impression que tout ça, ça peut aller vers où, qu'est-ce qui peut en sortir ?
Ben, malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse sortir grand chose de constructif avec tout ça. Malheureusement, et après, bon, il y a toujours le fait que les gens se rencontrent dans la rue et tissent des complicités dans la rue. Si elles arrivent à durer un peu dans le temps, c'est sûrement, ça peut être fertile. Je suis quand même aussi, je dois dire, assez sceptique, voire assez critique avec ce qui se passe dans le sens où le juge qui a condamné Pablo Rassel, qui donc vient vraiment de l'extrême droite, hein, lui se frotte les mains, parce que pour lui, c'est du gâteau. C'est des émeutes, c'est quasiment que en Catalogne. Quand on est espagnol, la Catalogne, c'est vraiment de la merde, quoi. On s'en fout que tant mieux, même si ça brûle à Barcelone, quoi, honnêtement. Et en plus, ça divise le Parti Socialiste et Podemos, quoi. En plus, ça fout la merde dans la coalition de gauche du gouvernement. Pour l'extrême droite, c'est du gâteau, hein, cette histoire.
Ah ouais.
Donc c'est un peu difficile de savoir comment faire quelque chose d'intéressant avec tout ça, quoi. Parce que honnêtement, plus la mobilisation grandit, enfin, d'ailleurs j'ai plutôt un doute, je pense qu'on est en train de voir la fin de la mobilisation. Déjà, ça aurait été une mobilisation quand même importante par rapport à ce qui s'est passé. J'imagine une des conséquences très intéressantes, et d'ailleurs je pourrais t'envoyer le lien tout à l'heure, il y a toute une coordination du monde du hip-hop qui s'est faite, il y a eu des chansons en soutien. Vous voyez, c'est comme si un petit rappeur d'extrême gauche français se faisait arrêter et que Ayam NTM, Aya Nakamura et je sais pas qui faisaient des chansons ensemble.
Ouais.
En solidarité avec cette personne. Bon, ça je trouve que c'est quand même déjà, d'un point de vue du monde de la culture, de l'hip-hop, etc., ça oblige les gens à se positionner, il y a un côté assez intéressant. Malheureusement, depuis les mouvements de la base, je ne sais pas trop quoi. Depuis en bas, je vois pas trop comment ça va donner plus de force. Je pense que ça tend encore plus la corde entre la jeunesse et la police.
Ok.
Parce que le premier jour, il y a quand même une jeune fille de 19 ans qui s'est fait éborgner. Bon, bah, voilà, ce genre d'histoire-là, ça s'oubliera jamais.
Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Es simple, t'ajuveïm perquè creïm que un canvi és possible.
Mos voldrien tenir a tirar tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan sa realitat abaciga.
Hacen faltas clases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios.
los pobres no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel a un Kalashnikov.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante. Me extinguche es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino de
elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. Sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión.
Et du coup, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est ce fameux morceau chanté par un collectif de rappeurs espagnols, donc dans les plus fameux et fameuses rappeuses espagnoles, en soutien à Pablo Hasél.
Il est sans papier, c'est pour cela on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine.
Punaise, il passera jamais en entier celui-là, c'est pas possible. Alors, histoire de tordre le cou un peu aux idées reçues qui voudraient que, par exemple, les migrants arrivent en Europe par des bateaux et qui se lancent sur des bateaux en attendant d'être sauvés par des bateaux d'ONG de manière coordonnée plus ou moins entre les passeurs et les fameuses ONG qui d'ailleurs n'ont plus trop de bateaux qui circulent en Méditerranée.
Ça veut dire ils peuvent toujours attendre parce que les bateaux ils sont tous bloqués quelque part en Italie.
Voilà, et comme on ne le répétera jamais assez sur cette antenne, bien sûr les gens prennent de plus en plus de risques pour passer les frontières et ce de manière exponentielle au fur et à mesure que les frontières se durcissent. Là, deux petits exemples de passage de frontières un peu hardcore, c'est à Melilla où il y a une personne qui a été retrouvée cachée à l'intérieur d'un sac hermétique contenant des cendres toxiques venant d'un incinérateur et classifié comme déchet toxique par l'Union Européenne. Il était dans un premier temps inconscient quand il a été découvert, mais il a ensuite repris connaissance. Le même jour, une deuxième personne a été découverte cachée dans une benne contenant des tessons de bouteilles destinés au recyclage. Voilà un peu dans quoi les gens sont prêts à se mettre pour passer les frontières. Bon, tant pis, pas de petit générique. D'ailleurs, en parlant de frontières et de surveillance, et avec des risques qui vont encore s'accroître si ces projets venaient à être mis en place, et malheureusement, on n'en doute pas trop. L'Europe veut s'équiper de drones pour surveiller sa grande forteresse, et pour ça, elle injecte pas moins de 8 millions d'euros dans le programme qui s'appelle Horizon 2020. Oui, on est en 2021, ça se trouve il était lancé il y a quelques temps, on ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça, bref. Le but, vous l'imaginez, surveiller les frontières par des essaims de drones autonomes, aériens et aquatiques. Bon, toutes ces infos, je les ai trouvées sur le site La Quadrature du Net. Alors le tout boosté à l'intelligence artificielle. Alors l'envie, c'est que tous ces engins, soient qu'ils soient donc terrestres, aériens ou aquatiques, détectent la présence humaine aux frontières, qu'ils décèlent des activités criminelles. Je sais pas, comme passer de la drogue ou passer une frontière, tiens. Et que si la menace est identifiée, l'engin prévient la police aux frontières pour qu'il puisse intervenir au plus vite. Alors rassurez-vous, hein, sur le papier, pour bénéficier de l'aide du programme Horizon 2020, il ne faut absolument pas que ces technologies puissent passer du côté militaire ou que ces engins soient équipés d'armes. Alors c'est-à-dire qu'ils en sont à préciser qu'il ne faut pas mettre de lance-roquettes sur leurs drones, parce que sinon, ça la fout mal, quand même.
Parce que le bonhomme qui nage dans la Méditerranée, on ne peut pas le buter avec une roquette tirée par un drone. Il faut quand même plutôt un garde-côte, par exemple, grec, pour venir lui donner un coup de rame sur la tête.
C'est ça. Alors, exactement. Parce que en plus c'est vrai qu'on a quand même plutôt l'habitude inverse, c'est-à-dire que les technologies habituellement viennent du domaine militaire et s'insèrent dans le domaine civil. Bon bah en fait quand il s'agit de frontières, bah là c'est un peu l'inverse qui risque de se passer, parce que bon, ils ont mis ça comme une espèce de garde-fou entre guillemets, mais comme le précise la Quadrature du Net, il précise que cette obligation est quand même bien molle et que rien ne contrôlera par exemple la suite de ce type de technologie si elle devait être vendue à des États tiers, et que d'après le journal The Intercept, beaucoup d'États sont déjà très intéressés par le projet Raw Border. Vous noterez le subtil jeu de mots de robot et de border, dont fait partie le projet dans Horizon 2020. Pour vous donner un peu un exemple de ce qui a déjà servi et qui a été visiblement mis de côté, il y a le projet qui a été testé en Grèce, en Hongrie et en Lettonie, qui s'appelle High Border Control. Tout ça a quand même des noms. Et en fait, il s'agissait d'une analyse des émotions, c'est-à-dire que les personnes qui désiraient passer la frontière devaient se soumettre à des questions, et leur visage était passé au crible d'un algorithme qui déterminait si elles mentaient ou non. Vous voyez,
un espèce de
détecteur de mensonges.
Donc c'est pour accélérer le contrôle aux frontières. Si le détecteur de mensonges estime qu'une personne dit la vérité, alors un code lui est donné pour qu'elle puisse passer la frontière facilement. Alors attention, on n'est pas dans un film de science-fiction. Hein. Et si l'algorithme considère que la personne ment, alors elle a envoyé. Alors comme on vit dans un pays humain et tout ça, alors c'est quand même au final un être humain qui va prendre la décision. Donc elle a envoyé dans une seconde file vers des gardes frontières réels cette fois-ci, qui lui feront passer un interrogatoire, en sachant qu'il y a un interrogatoire assez neutre, parce que comme ils sont dans la file des gens qui ont menti, bon bah du coup l'interrogatoire est un peu orienté. Quoi. Cette analyse d'émotion prétend reposer sur un examen de 38 micro-mouvements du visage, comme l'angle de la tête ou le mouvement des yeux. Bref, vous imaginez un peu, vous êtes un interrogatoire comme ça, on vous dit votre visage est analysé, tu réponds à une question, je pense que tu fais pas 38 micro-mouvements, t'en fais 3650, bref. Et voilà. Bon, il semblerait que ce projet a été financé par Horizon 2020 à hauteur de 4,5 millions d'euros. Et il semble qu'aujourd'hui il ait été arrêté, parce que l'eurodéputé allemand Patrick Breyer, qui a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir plus d'informations sur ce projet, informations qu'il était refusées pour atteinte au secret commercial. Donc c'est-à-dire que l'Europe protège en plus ses sources, mais ça a quand même été suspendu. Et voilà, donc le soi-disant un peu garde-fou civil-militaire est quand même bien mince, et on imagine bien quand même que les frontières restent un peu un terrain d'expérience sur des futures utilisations militaires de ce type de technologie. Voilà, là, c'est complètement le hasard des jingles, quoi.
Et on termine avec un petit... On termine un petit peu en retard, mais il n'y a pas d'idées noires après, donc on peut se permettre. Avec un tout petit agenda qui vous donne rendez-vous à 8h30, vendredi 26 février, pour soutenir l'île Égalité, qui est un squat de Villeurbanne qui est menacé d'explosion. qui est menacé d'expulsion. Et donc le rendez-vous est donné à 8h30 pour un petit déjeuner de soutien vendredi devant le tribunal d'instance de Villeurbanne. C'est au 3 rue Docteur Fleury-Pierre, Papillon.
Et c'est donc la fin de ce Canu Info. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Plus rebelle des radios.